Bonjour. L'objectif de cette vidéo est de présenter les concepts élémentaires des bases de données, en particulier des bases de données relationnelles. Je commencerai par un bref historique, avant de parler de ce que sont effectivement les systèmes de bases de données. Et je terminerai cette vidéo en présentant de manière intuitive les concepts sous-jacents aux bases de données relationnelles. Les bases de données relationnelles, en gros, apparaissent dans les années 60-70 dans le domaine de l'informatique de gestion. Je le signale parce que, comme on va le voir à plusieurs reprises dans les vidéos consacrées aux bases de données, ça a un impact sur la forme de ces bases de données et sur les limites de ces bases de données. Premier impact sur le langage qu'on va utiliser pour interagir avec ces bases de données. Derrière informatique de gestion, pour le dire grossièrement, imaginons gestion du stock et gestion de la paye. Qu'est-ce qu'un langage déclaratif? C'est un type de langage de programmation un peu différent de ceux auxquels vous êtes en général habitués. Dans un langage déclaratif, plutôt que d'écrire comment faire le calcul, on va simplement caractériser le résultat que l'on cherche à obtenir. Quel est le lien entre les deux? Eh bien, ce qu'on verra, c'est que le langage utilisé pour interagir avec les bases de données relationnelles, SQL en l'occurrence, est un langage déclaratif et qui a été conçu pour pouvoir être utilisé par des non-développeurs. Donc, c'est évidemment lié à cet aspect d'informatique de gestion. L'idée, c'est qu'avec une formation raisonnablement courte, un comptable, par exemple, sera capable de lire, voire d'écrire du SQL, et donc d'utiliser la base de données. Ce qui est également intéressant de noter, c'est que le modèle que je vais présenter dans cette vidéo et dans la vidéo suivante n'a essentiellement pas changé depuis que ces bases de données relationnelles sont apparues, mais que les implémentations ont évidemment beaucoup évolué, notamment en termes de performance. Et là encore, cette possibilité d'avoir un modèle qui évolue peu, mais des implémentations qui évoluent largement, est assez largement liée au caractère déclaratif. L'idée étant que comme je l'ai dit, vous ne décrivez pas la manière de faire le calcul, mais vous caractérisez le résultat, ça veut dire que le système, s'il est intelligent, peut déterminer la meilleure façon d'effectuer le calcul que vous souhaitez, dont vous souhaitez obtenir le résultat. Aujourd'hui, il y a des bases de données absolument partout, sur votre ordinateur portable ou sur votre téléphone. Quand vous avez un annuaire, par exemple, derrière, vous aurez, dans la plupart des cas, une base de données. Et si je dis utilisation massive sur Internet, ce que j'entends par là, c'est qu'au fond, dès que vous avez un site web auquel vous pouvez vous connecter avec un système de login mot de passe, vous avez une base de données derrière pour stocker ces informations. Ce qui se passe aujourd'hui, on le verra dans une prochaine vidéo, c'est la remise en cause du modèle relationnel qui, je vends un peu la mèche, mais qui est assez largement dû au fait que, comme je l'ai dit sur le transparent précédent, ces bases de données sont apparues au sein de l'informatique de gestion. Or, aujourd'hui, on a à résoudre des problèmes qui sont très différents. Et en particulier, deux grandes évolutions récentes des bases de données sont l'intégration des SIG sur les systèmes d'information géographique et le big data. L'intégration des systèmes d'information géographique s'est faite sans trop de mal au sein des bases de données relationnelles. L'idée, c'est que vous allez pouvoir manipuler au-delà des types de données habituelles des données de type latitude-longitude et des polygones, par exemple, utilisant ce type de coordonnées, avec des possibilités de faire des requêtes relativement fines, du style est-ce que ces polygones ont une intersection, est-ce que ce point est à l'intérieur de tel ou tel polygone. Le big data, c'est évidemment la grosse évolution de ces dernières années, et c'est une évolution, on le verra, qui remet en cause le modèle relationnel. Cette remise en cause, on verra, ça a donné lieu à l'émergence du modèle NoSQL, et on verra que ça a aussi augmenté les besoins en flexibilité. L'idée derrière les besoins de flexibilité est que le modèle qu'on va avoir des bases de données relationnelles est relativement rigide, ce qui convient bien, encore une fois, à la paye et au stock, parce que là, vous souhaitez vraiment avoir des informations très précises. Quand vous êtes dans le domaine du big data, très souvent, vous avez des données bruitées ou incomplètes et vous avez besoin de plus de flexibilité. Un mot sur ce que sont les SGBD, avec éventuellement un R. Donc c'est un acronyme pour système de gestion de base de données, le R étant pour relationnel. Ces SGBD, ce sont des logiciels qui vont donc agir comme base de données et qui vont être chargés d'une gestion robuste et optimisée des données. Éléments importants derrière cela. Premier élément, l'intégrité des données. Deuxièmement, la sécurité des données. L'intégrité des données, c'est l'idée que si votre système est interrompu, par exemple par une panne, vos données ne sont pas perdues. C'est une garantie qui est très difficile à donner. Si vous stockez vos données sous la forme de fichiers, vous aurez à faire d'énormes efforts pour garantir l'intégrité de vos données, pour être sûr que vous ne perdez pas de données. Si vous utilisez une base de données, la base de données vous garantit une reprise sur erreur, une reprise sur panne. C'est une première raison d'utiliser une base de données. Et derrière la question de la sécurité des données, il y a l'idée que votre base de données va vous permettre de compartimenter les données pour dire qui a accès à quoi. Et comme je l'ai déjà dit, une des caractéristiques des systèmes de base de données relationnels, c'est que vous accéderez à vos données en utilisant un langage qui s'appelle SQL. Ce qui est implicite derrière ce transparent où je parle des GBDR, donc des systèmes de base de données, c'est l'idée que vous allez avoir votre système de base de données d'un côté, et vous allez avoir de l'autre côté votre programme principal. Et votre programme principal va envoyer des requêtes au système de base de données et recevra des réponses à ces requêtes. Donc c'est l'idée que vous avez un système à part de votre programme principal, qui encore une fois est chargé de cette gestion des données et vous donne un certain nombre de garanties. Un mot sur les implémentations, ça n'a pas énormément d'intérêt de les lister, mais c'est juste pour donner une idée. Vous avez trois grands systèmes de base de données commerciaux. Oracle, qui est le plus connu, mais vous avez des implémentations par Microsoft et par IBM. Et dans le monde open source, vous avez trois grands acteurs, MySQL, PostgreSQL et SQLite. MySQL, pour la communauté open source, pose le léger problème qu'elle a été rachetée par Oracle il y a quelques années. Certains ont des doutes sur l'avenir de ce système. C'est probablement une des raisons pour lesquelles PostgreSQL est très populaire. Et SQLite, c'est un système qui a un énorme intérêt lorsqu'on prend en Python, parce qu'il est livré en standard avec Python. Il n'y a rien de plus à installer. Un mot maintenant sur les concepts sous-jacents à ces bases de données. Encore une fois, dans le reste de cette vidéo, je vais juste donner l'intuition et puis on raffinera dans des vidéos ultérieures. L'idée centrale d'un système de bases de données relationnelles, c'est que vos données vont se trouver stockées dans une table. L'exemple que je vais utiliser au fil des vidéos, c'est l'exemple d'une vidéothèque. Je souhaiter la liste des films dont je dispose. Et vous voyez, une première manière d'organiser mes données, ça va être de dire que je vais construire une table avec trois colonnes pour le titre, l'année de sortie du film et le nom du metteur en scène. Et chaque ligne va représenter un film. Ici, Le Parrain, deux versions de Scarface et un quatrième film. Donc, rien de complexe. Faites juste bien attention au fait que les colonnes et les lignes sont de nature différente. les colonnes, ce sont des attributs, toi, titre, année, metteur en scène, et les lignes, ce sont des éléments, des entités, des instances de ce que je cherche à stocker, ici, en l'occurrence, des films. Pour affiner un tout petit peu ce qu'on peut stocker dans cette table, on va ajouter un concept de valeur nulle, qui est un peu comme en C ou en C++, dénote l'absence de valeur. Ça va servir à dire qu'une case est vide, en gros. Deux conséquences de cette valeur nulle auxquelles il faut faire relativement attention. Première chose, c'est que nul est absorbant. Ça veut dire évidemment que si vous faites nul plus 3, évidemment c'est égal à nul. Et deuxième chose, pas forcément intuitive, donc il est bon de le souligner, c'est que du fait de l'existence de nul, vous avez des valeurs de vérité, vous avez trois valeurs de vérité et non deux. D'accord. La logique à laquelle vous êtes habitué dans les langages de programmation, c'est une logique binaire où vos booléens sont false et true. Vos valeurs de vérité sont vraies et faux. Dans les bases de données relationnelles qui nous intéressent, vous avez une troisième valeur de vérité, unknown, inconnue, entre guillemets, entre vrai et faux. Et simplement, vous obtiendrez ce résultat unknown à chaque fois, par exemple, que vous comparez à nul. Donc si vous comparez 3 à nul, la réponse ne sera ni vrai ni faux, la réponse sera inconnue. Concept central des bases de données relationnelles, c'est le concept de clé primaire. L'idée d'une clé primaire, c'est qu'elle doit identifier de manière unique une des lignes de votre table. Et on dit qu'une clé primaire est simple ou composite. Simple, ça veut dire qu'une seule colonne compose votre clé, et composite, plusieurs colonnes. Selon ce que vous cherchez à modéliser, vous avez ou non une clé primaire évidente. Lorsque vous n'avez pas de clé primaire évidente, en général, ce que vous faites, c'est que vous rajoutez une nouvelle colonne qui va servir d'identifiant. Ici, vous voyez, je rajoute une colonne idente et je vais donner des nombres à mes différentes lignes. Un exemple de clé évidente, c'est que si vous gérez des personnes, par exemple, leur numéro INSEE, constitue une bonne clé primaire, parce que vous savez que le numéro INSEE va identifier de manière unique un individu. Concept immédiatement lié aux clés primaires, le concept de clé étrangère. L'idée d'une clé étrangère, ça va être de faire référence à la clé primaire d'une autre table. C'est-à-dire que dans l'exemple que j'ai commencé, j'avais une seule table pour stocker toutes les informations sur mes films, mais dans la réalité, je vais avoir plusieurs tables, possiblement des dizaines et des dizaines de tables, et le lien entre ces tables, comme on va le voir sur le transparent suivant, ça va être le lien entre les clés étrangères et les clés primaires des différentes. D'un point de vue terminologique, cette notion de clé étrangère, c'est ce qu'on appelle une contrainte d'intégrité, dans les bases de données relationnelles, c'est-à-dire quelque chose qui doit être vrai à tout instant pour que la base de données soit, entre guillemets, en bon état. Et l'un des bénéfices de l'utilisation d'un SGBD, c'est que celui-ci va garantir à chaque instant que vos contraintes d'intégrité sont respectées. C'est-à-dire qu'il ne vous laissera pas modifier votre base de données d'une manière qui violerait cette contrainte d'intégrité. Donc regardons ce que cela donne sur mon exemple. Là où précédemment j'avais une seule table qui contenait toutes les informations sur mes films, j'ai maintenant deux tables, une table film en haut, une table titre en bas. Vous voyez que dans ma table film, j'ai conservé ma colonne idente, qui est ma clé primaire. J'ai conservé l'année et le metteur en scène, mais j'ai supprimé le titre. Et ma table titre va évidemment contenir les titres, avec une colonne qui est l'identifiant du film, une colonne qui est la langue du titre, et une colonne qui est le titre lui-même. Vous voyez que ça me permet, pour le film 04143, d'avoir le titre à la fois en français et en anglais. Et par rapport aux histoires de clés dont j'ai parlé précédemment, IDENT est la clé primaire de ma table film, et IDENT dans ma table titre, c'est une clé étrangère qui fait référence à la clé primaire dans la table film. Et en termes de contraintes d'intégrité, ce que ça veut dire, c'est que je ne peux pas avoir ici des idents qui n'existent pas en haut. Dernier concept, mais qui découle au fond de ce que j'ai présenté jusqu'ici, l'idée de schéma, qui, plutôt que de s'intéresser au contenu de la base de données, parle de sa structure. Le schéma, pour l'exemple que j'ai déroulé jusqu'ici, c'est d'avoir, comme on vient de le voir, deux tables, film et titre, avec des attributs ou des colonnes définies comme ceci, ident, année, metteur en scène d'un côté, ident, langue et titre de l'autre côté. Ce que j'ai souligné dans chaque table, ident ici et ident et langue ici, ce sont les clés primaires. Clé primaire simple ici, clé primaire composite là. Et le dernier élément de mon schéma, c'est cette flèche qui montre que ident dans ma deuxième table est une clé étrangère qui fait référence à ident clé primaire dans ma première table.